Chapitre 26. Rachel bâilla sans décrocher la mâchoire. Frappant à la vitesse de l'éclair, Violet lui flanqua une gifle assez forte pour la faire basculer du rocher sur lequel elle était assise. Sonnée, la fillette se redressa sur un bras. Sa main libre plaquée sur la joue, elle attendit que la terrible douleur se calme un peu. Très contente d'elle, Violet s'intéressa de nouveau à son travail. L'esprit embué par le manque de sommeil, Rachel avait baissé sa garde, permettant à sa tortionnaire de la prendre par surprise. La souffrance était assez forte pour lui arracher des larmes, mais elle savait qu'il valait mieux pour elle ne pas gémir et ne rien montrer de sa détresse. « Bailler est impoli, » déclara sentencieusement Violette. « Devant une tête couronnée, c'est une offense. Si tu recommences, je te ferai fouetter. »« Oui, reine Violette. » souffla Rachel. Ce n'était pas une menace en l'air, elle le savait très bien. Épuisée, elle parvenait à peine à garder les yeux ouverts. Si elle avait été jadis la compagne de jeu de Violette, un sort qui n'avait déjà rien d'enviable, aujourd'hui elle n'était plus guère qu'une esclave lui servant à se défouler. La jeune reine semblait décidée à se venger de tous ceux qui lui avaient fait du mal, du moins selon son étrange vision du monde. La nuit, elle avait obligé Rachel à porter un écrase-langue. Cet instrument en fer, conçu spécialement à cet effet, coinçait la langue de la victime entre deux pièces métalliques plates. Le système de fixation, accroché à la mâchoire, reprenait en gros le principe d'un mort. Bien entendu, Rachel s'était débattue, ce qui lui avait valu une dizaine de coups de fouet. Ensuite, un garde lui avait tenu la bouche ouverte pendant qu'un autre homme, utilisant une pince pour garder en place sa langue, l'avait équipée de force du sinistre instrument. Malgré tous ses efforts, Rachel n'avait pas pu éviter la punition, car sa langue n'avait nulle part où se cacher. Une fois l'écrase-langue en place, un masque de fer assurait que la victime ne puisse plus se libérer. Dans l'incapacité de parler, Rachel parvenait tout juste à déglutir. Ravie de voir sa petite victime muette et terrorisée, Violette l'avait ensuite enfermée dans une cage de fer munie d'un petit guichet. De cette manière, avait-elle dit, la traîtresse saurait ce qu'on éprouvait lorsqu'on était morte d'angoisse et privée de la parole. De fait, l'expérience était horrible. Être prisonnière d'une cage, un masque sur le visage et la langue bloquée, avait failli coûter sa raison à Rachel. Au début, cédant à la panique, elle avait poussé des cris de gorge inhumains. Pas plus perturbée que ça, Violette avait jeté un lourd tapis sur la cage afin que les braillements ne lui cassent plus les oreilles. Crier, augmentant la pression des pièces de métal sur sa langue, Rachel avait bientôt eu un goût de sang dans la bouche. Elle avait réussi à se calmer uniquement lorsque Violette, avec un grand sourire, l'avait menacée de demander à Six de lui couper la langue une bonne fois pour toutes. Certaine que l'horrible femme l'aurait fait sans hésiter, la fillette était parvenue à ne plus hurler. Pas moins terrifiée, elle s'était roulée en boule, et pour reprendre un peu du poil de la bête, avait tenté de se remémorer tout ce que Chase lui avait appris. Au bout d'un moment, cet exercice l'avait apaisée. Son père adoptif lui avait conseillé de ne pas penser à sa triste situation, mais d'imaginer au contraire le moment où elle aurait une occasion de se libérer. Selon Chase, les gens se comportaient selon une routine très facile à anticiper, et il suffisait d'attendre le moment où ils commettaient une erreur. Toute la nuit, dormir étant impossible, Rachel s'était repassé en boucle les faits et gestes de Violette et des gardes qui l'assistaient. Tôt ou tard, elle trouverait une faille. Au matin, on l'avait sortie de sa cage, puis on lui avait retiré l'écrase-langue. La langue écorchée, elle avait à peine touché à la maigre pitance qu'on lui avait jetée comme à un chien. Depuis, le rituel se répétait chaque soir, et chaque matin la douleur s'aggravait. Sans compter que les mâchoires de la fillette, à force de rester ouvertes, lui faisaient également de plus en plus mal. Lorsqu'elle s'alimentait, si peu que ce fût, tout avait un goût de métal rouillé. Parler étant devenu une torture, elle se contentait de répondre aux questions de Violette le plus laconiquement possible. La regardant avec un mépris non dissimulé, Violette la traitait parfois de « sale petite muette ». Désespérée d'être retombée sous la coupe de sa tortionnaire de toujours, Rachel avait en plus le cœur brisé par la mort de Chase. Quoi qu'elle fasse, elle ne parvenait pas à chasser de son esprit le moment où il avait été blessé à mort. Malgré tout ce que la reine lui faisait subir, le destin de son père adoptif l'obsédait et la privait de toute étincelle d'espoir. Même si elle échappait à Violette, où irait-elle et qui remplacerait son protecteur? Dès que ses cours de dessin et ses obligations royales lui en laissaient le temps, Violette se distrayait en torturant sa prisonnière. N'ayant jamais oublié que la fillette avait jadis osé la menacer avec un bâton magique, Violette se vengeait souvent en posant sur le bras de son jouet humain une braise brûlante qu'elle venait de tirer de la cheminée avec des pinces. Malgré tout, le chagrin provoqué par la mort de Chase restait le plus grand tourment de Rachel. Puisque son père adoptif n'était plus là, tout ce qui pouvait lui arriver avait une importance très relative. Pour la punir de ce qu'elle appelait « ses transgressions », Violette entendait inculquer une discipline de fer à sa petite victime. Pour une raison inconnue, elle avait décidé que la fillette était responsable de la perte de sa langue, et ce crime-là, bien entendu, n'était pas du genre qu'on se faisait pardonner facilement. Avoir quitté le château était également tenu pour un acte vil et méprisable, une marque de mépris en remerciement d'une extraordinaire générosité ainsi que le présentait Violette. Selon elle, sa mère et elle s'étaient donné beaucoup de mal pour aider une petite orpheline qui s'était empressée de les trahir dès qu'elle en avait eu l'occasion. Rachel ne prenait même pas la peine de rétablir la vérité, parce que sa plaidoirie tomberait dans l'oreille d'une sourde. Tôt ou tard, quand elle serait lassée de la torturer, Violette ferait exécuter sa compagne de jeu. Chaque jour, la jeune reine envoyait à l'échafaud des prisonniers accusés de haute trahison. Dès que quelqu'un lui déplaisait ou que Six lui désignait un ennemi de la couronne, le bourreau pouvait commencer à aiguiser le tranchant de sa hache. Lorsque le condamné avait osé critiquer une décision de la reine, l'exécuteur des hautes œuvres devait s'assurer que sa fin soit lente et douloureuse. Afin de vérifier qu'il en allait bien ainsi, Violette ne détestait pas assister de temps en temps aux exécutions. La reine avait pris cette habitude dès sa plus tendre enfance, lorsque sa mère envoyait des dizaines de malheureux à l'échafaud. Étant son jouet humain, Rachel avait plusieurs fois été obligée de l'accompagner. La fillette détournait toujours le regard pour ne pas voir mourir le condamné. Violette, elle, buvait ce spectacle des yeux. Six avait imaginé un ingénieux système qui permettait aux citoyens de dénoncer anonymement leurs voisins, leurs relations et même les membres de leur famille. Étant de loyaux sujets de la reine, les délateurs étaient grassement payés chaque fois qu'ils livraient une nouvelle cargaison de traîtres. Depuis l'époque où Rachel était avec elle, Violette avait changé, et pas en bien. À présent, elle adorait faire souffrir les autres, même sans raison. Naguère, elle n'avait rien contre, bien sûr, mais ce n'était pas son passe-temps favori. Six ne manquait pas une occasion de répéter que la douleur était un excellent professeur. L'idée de contrôler la vie des autres l'excitant au plus haut point, la jeune reine estimait maintenant normal qu'un seul modèle les condamne à d'atroces souffrances. En prenant un peu d'âge, Violette était également devenue soupçonneuse, et même maladivement soupçonneuse. À part Six, nul ne lui semblait digne de confiance, et surtout pas ses sujets, qu'elle tenait tous pour des régicides en puissance. Pour la reine, les êtres humains ne valaient pas grand-chose, et elle ne cherchait pas à dissimuler le profond mépris qu'elle éprouvait pour eux. À l'époque où Rachel vivait au château, les gens prenaient déjà garde à ne pas marcher sur les pieds de la mauvaise personne, mais s'ils redoutaient la reine Milena, et pas sans raison, les domestiques n'en continuaient pas moins à sourire et à apprécier la vie. Les blanchisseuses échangeaient des ragots, les cuisiniers faisaient des dessins amusants dans la nourriture, les femmes de ménage travaillaient en chantonnant et les soldats échangeaient des plaisanteries au moment de la relève ou lorsqu'ils se croisaient pendant les patrouilles. Aujourd'hui, plus personne n'osait sourire ni plaisanter dès que Violette ou Six rôdaient dans les environs. Les femmes de ménage, les blanchisseuses, les couturières, les cuisiniers et les soldats se muraient dans un sérieux assommant et l'atmosphère de la cour évoquait celle d'une morgue. Tout le monde avait peur et se méfiait de son voisin, devenu un dénonciateur potentiel et rien de plus. Devant la sinistre conseillère royale, on multipliait les déclarations de loyauté à la couronne et à la souveraine. Dans son dos, les discours avaient une autre teneur car les gens détestaient la reine et son ignoble âme damnée. mais un seul regard de la harpie suffisait à les pétrifier comme si le sang s'était figé dans leurs veines.
« Ici, exactement !»
dit soudain Six.
« Eh bien quoi ici ?»
marmonna Violette en finissant de grignoter un graissin qui craquait délicieusement sous ses dents. Rachel se hissa de nouveau sur le rocher d'où la gifle l'avait délogé. Il fallait qu'elle se concentre. Si Violette l'avait frappée, c'était parce qu'elle se montrait distraite et... Non, ce n'était pas vrai. Violette l'avait frappée parce qu'elle était une tortionnaire dans l'âme. Rachel n'y était pour rien, et comme le lui avait si souvent répété Chase, elle devait cesser de se sentir coupable des fautes d'autrui. Chase. Penser à lui suffisait à faire monter des larmes aux yeux de Rachel. Pour ne pas éclater en sanglots et fournir un prétexte à Violette pour la rosser, elle devait se forcer à le chasser de ses pensées. Dans le monde de Violette, revu et corrigé par Six, les esclaves ne devaient jamais rien faire sans demander l'autorisation, et pleurer faisait partie de la liste des interdits.
« Là, exactement !»
répéta Six avec une patience un peu forcée qui ne lui ressemblait pas vraiment. Violette, se tournant enfin vers elle, la conseillère désigna quelque chose sur la paroi.
« Il ne manque pas quelque chose, d'après toi ?»
Violette se pencha pour mieux observer la pierre lisse.
« Eh bien, je...
Où est le soleil sur ton dessin ?»
Violette désigna un disque jaune brillant.
« Tu ne vois donc pas ? Ne me dis pas que tu n'as pas reconnu le soleil !»
Six foudroya sa jeune protégée du regard.
« Bien entendu que je l'ai reconnu, Majesté. Mais où est-il dans le ciel, ton fameux soleil ?»
Violette se tapota le menton avec le bout pointu de son morceau de craie.
« Dans le ciel ? »
insista-t-elle.
« Oui, dans le ciel. Où est-il ? Sommes-nous censés comprendre qu'il est juste au-dessus de nos têtes et qu'il est donc midi tapante ?»«
Mais non, il est beaucoup plus tard et tu le sais, pas vrai ? De toute façon, rien ne t'échappe alors, la position du soleil.
Dessines-tu exclusivement pour moi ? Ce que je devine n'a aucune importance. Sur ton dessin, il faut qu'on voie où est le soleil. Ce que quelqu'un comme moi croit ou pressent ne change rien au fond de l'affaire. La représentation doit être fidèle à son sujet et comporter une série d'informations bien précises. Le dessin est conçu pour pouvoir se passer de mes commentaires et indiquer clairement où est l'astre du jour. Est-ce à la personne qui regarde d'en décider, Violette ?
Je suppose que non,
reconnut la jeune reine. Du bout d'un ongle, Six suivit les contours sur la roche grise du soleil dessiné par son élève.
Alors dis-moi, que manque-t-il ?
Ce qui manque...
marmonna la reine.
« Oh, je vois !»
Elle traça une ligne droite à l'endroit que désignait Six.
« L'horizon ! Pour déterminer la position du soleil, il faut représenter l'horizon. Tu me l'as souvent dit, mais ça m'est sorti de l'esprit. Tu sais, ça fait beaucoup de choses à mémoriser, et c'est un sacré travail, cet apprentissage. »
Six ne se départit pas de son sourire sans joie.
« C'est vrai, ma reine, cette tâche est accablante. » « Désolé d'avoir oublié à quel point j'ai souffert pour apprendre tout ça quand j'avais ton âge. »
Le dessin sur lequel travaillait Violette était bien plus compliqué que tous les autres, mais Six était toujours là pour lui dire que faire au moment adéquat. Jamais très vive quand il s'agissait de saisir l'ironie, la reine brandit sentencieusement son morceau de craie.
« Eh bien, tu aurais intérêt à t'en souvenir à partir de maintenant. »
Six croisa humblement les mains.
« Oui, ma reine, je ferai attention. »
Les lèvres pincées, elle se détourna de Violette pour étudier de nouveau la paroi.
« Arrivé à ce point, nous avons besoin de la carte stellaire de cette maison. Si tu veux, je t'en dirai davantage plus tard, mais pour l'instant, si je te montrais le strict nécessaire... »«
Si ça te paraît mieux... »
marmonna la reine avant de se réattaquer à son délicieux graissin.
Six ouvrit un petit ouvrage.
Se penchant en avant, son élève plissa les yeux pour étudier la page que sa conseillère lui désignait. Avant de se mettre au travail, elle engloutit son graissin.
« Tu vois l'azimut ? Tu te souviens de la leçon sur l'angle de référence par rapport à l'horizon pour l'étoile que nous voyons ici ?»«
Oui, »
murmura Violette comme si elle comprenait vraiment de quoi lui parlait Six.
« Ça concerne cette référence angulaire-là, à cet endroit du dessin. C'est bien ça ?
Oui. » C'est une représentation du facteur d'inflexion qui unifie et organise toute la structure visuelle.
Et la lie à lui par la même occasion,
ajouta pensivement Violette.
Encore une fois, c'est exact. Le lien est un élément de ce qui est nécessaire pour maintenir la structure en place au moment de la connexion finale. C'est ça qui rend indispensable l'horizon que tu viens de dessiner. Sinon, il s'agirait d'une corrélation fluctuante.
Violette hocha gravement la tête.
Je comprends pourquoi une connexion est nécessaire. Si l'interrelation n'était pas fixée, les événements pourraient survenir n'importe quand, aujourd'hui, demain ou dans une dizaine d'années.
Bien vu,
approuva Sis. Violette eut un sourire triomphal.
Mais d'où tirons-nous tous ces symboles? Et comment déterminer leur position dans le dessin? Plus précisément, comment être sûr qu'ils doivent figurer aux endroits que tu m'as indiqués?
Sis prit une grande inspiration.
Je peux t'enseigner tout ça, si tu as 20 années de calme devant toi. Et si tu es prête à attendre tout ce temps pour te venger.
Ça, pas question.
Dans ce cas, le plus court chemin vers un résultat parfait, c'est que je supervise le dessin.
Oui, sans doute.
Tu as le talent requis, ma reine. Pour la phase où tu en es, tu t'en tires admirablement bien. Même si je te donne un coup de pouce sur des détails, rien de tout ça ne serait possible sans ton génie. Privé de ton don, je ne pourrais rien faire.
Violette sourit comme un élève qui vient d'accéder au tableau d'honneur. Après avoir jeté un dernier coup d'œil au livre que Sis tenait ouvert pour elle, la reine se remit au travail, copiant soigneusement les éléments dont elle avait besoin. Rachel était surprise par l'incontestable talent de sa tortionnaire. Dans toute la grotte, de l'entrée à la salle reculée où les deux femmes travaillaient, les parois étaient couvertes de dessins. À certains endroits, les nouvelles œuvres étaient tassées dans l'espace libre disponible entre de plus anciens croquis. Certains dessins étaient d'excellente qualité, avec des détails tels que les ombres, par exemple. La majorité, cependant, représentait de manière très simple des ossements, des épis de blé, des serpents ou d'autres animaux. On y voyait aussi des gens en train de vider de grandes chopes, ornées d'une tête de mort et de deux tibias croisés. À un endroit, une femme qui semblait composée de bâtonnets sortait en courant d'une maison en feu, mais elle aussi était la proie des flammes. Plus loin, on voyait un homme nager près d'un navire en train de sombrer. Plus loin encore, un serpent mordait la cheville d'un personnage. Les parois étaient également couvertes de représentations de cercueils et de tombes. Toutes ces images avaient un point commun: donner la chair de poule à qui osait les regarder. Mais aucun dessin dans toute la grotte n'approchait la complexité du travail en cours de Violette. Quelques images étaient les reproductions fidèles d'hommes ou de femmes, grandeur nature, dans un petit nombre de cas. Ces personnages étaient immanquablement dans une situation délicate. Un rocher leur tombait dessus, ou un cheval les piétinait alors qu'ils étaient à terre. En fait, une multitude de dessins illustraient diverses façons de mourir. Mais ils étaient extrêmement petits et par conséquent beaucoup moins impressionnants. La fresque de Violette, en revanche, occupait toute une partie de la paroi, allant du sol à la voûte et se perdant bien au-delà du cercle de lumière projeté par la lampe. La reine avait tout peint elle-même, Sis guidant sa main lorsqu'il le fallait, bien entendu. Quelque chose angoissait beaucoup Rachel. Entre deux séances où elle ajoutait des étoiles, des diagrammes et des équations, Violette peaufinait le sujet qui occupait le centre de son étonnante création. Et il s'agissait d'un portrait en pied de Richard. Le trait de Violette, formidablement précis, faisait passer pour des gribouillis d'enfants toutes les autres images de la grotte. Sur ses dessins, on reconnaissait immanquablement des choses très basiques, comme un nuage d'orage avec des traits hachurés symbolisant la pluie, ou un loup dévoilant ses crocs, ou encore un homme se plaquant les mains sur la poitrine tandis qu'il s'écroulait. Autour de ces sujets centraux, les artistes précédents avaient uniquement dessiné des objets quotidiens tels que des outils ou des armes. L'image de Richard était entourée de motifs si compliqués qu'on peinait à les identifier au premier coup d'œil. Il y avait des nombres, des runes, des mots écrits dans des langues inconnues, des diagrammes constellés de pictogrammes minuscules placés avec un soin maniaque, des symboles géométriques qui semblaient composer une sorte de tramage sur la pierre, et chaque fois que Violet dessinait un de ces mystérieux symboles, Six venait se placer derrière elle. Presque en transe, elle murmurait des consignes pour chaque ligne, empêchant la reine de poser sa craie à un endroit qui n'eût pas été adéquat. Rachel avait même vu l'horrible femme saisir le poignet de Violette pour l'empêcher de dessiner au mauvais endroit. L'air profondément soulagé, elle avait ensuite placé la main de sa protégée face à la zone souhaitable. En plus d'être complexe, l'œuvre de la reine était en couleur. Alors que tous les autres dessins n'avaient connu que la craie blanche d'artiste depuis longtemps disparue, la fresque de la reine représentait des arbres verts, des étendues d'eau bleue, un soleil jaune et des nuages irisés de rouge. Les motifs ornementaux, eux, étaient souvent entièrement blancs. Mais quelques-uns paraissaient avoir été coloriés avec une rigueur toute militaire, comme si la hiérarchie des teintes avait eu un sens profond. Enfin, les dessins de Violette, contrairement aux autres, étaient en partie phosphorescents. Pas à cause de la craie de toute évidence, puisque certains détails réalisés avec le même morceau ne brillaient pas du tout. D'autres signes kabbalistiques luisaient uniquement quand on les laissait dans le noir. À ces moments-là, on voyait que ces entrelacs de lignes formaient un étrange visage, à la fois effrayant et familier. Dès qu'on approchait avec une torche ou une lanterne, ce visage disparaissait, cédant la place à un banal réseau de lignes. Après avoir contemplé cette partie de la paroi pendant des heures, Rachel ne comprenait toujours pas comment cette illusion d'optique était possible. Pourtant, dans le noir, un visage l'observait bel et bien, deux yeux scintillants la regardant s'éloigner avec ses deux geôlières. Mais tout ça n'était rien comparé à l'image de Richard. Un dessin si réaliste que Rachel eût cru que son ami le sourcier allait lui parler. Comment une personne aussi méchante que Violette pouvait-elle avoir un don si divin pour le dessin? Même si elle avait été moins douée, reconnaître Richard n'aurait pas exigé beaucoup d'efforts. Sa tenue, par exemple, était représentée dans les moindres détails, y compris les mystérieux symboles qui composaient une frise sur l'ourlet de sa tunique. Pour ses ornements, Six avait dû fournir une description très précise à sa protégée, car on se serait vraiment cru face à Richard. Son extraordinaire cape dorée était également criante de vérité. Le tissu ondulant autour de lui, on aurait pu croire que le sourcier sombrait lentement dans une onde aux reflets jaunes. Tout autour de lui, apparemment disposés au hasard, on remarquait des motifs ondulés aux couleurs très vives. Six les appelait des auras, et chacun était relié à Richard par une chaîne d'équations et de runes. Selon Six, quand on en arriverait à la phase finale, ces éléments qui s'interposaient entre le sourcier et son essence se connecteraient pour former une barrière infranchissable. Rachel ne comprenait pas un traître mot de ce charabia. Violette, en revanche, le buvait comme s'il s'agissait d'un merveilleux nectar. Six devait être particulièrement fier de sa barrière, car elle passait de longs moments à admirer ces divers éléments encore en gésine. Sur le dessin, Richard portait l'épée de vérité. Mais l'arme était étrangement floue, comme si elle ne se trouvait pas dans la même réalité que son propriétaire. En même temps, elle semblait faire partie de son corps, car il la tenait serrée contre sa poitrine, qu'elle semblait parfois traverser. En regardant mieux, on était même plus certain que le sourcier tenait son épée. Violette avait beaucoup travaillé pour obtenir cet effet, Six la faisant recommencer chaque fois qu'elle trouvait trop de substance à l'épée magique. Rachel s'étonnait que l'arme soit représentée avec Richard. N'était-elle pas en possession de Samuel depuis quelque temps? Certes, mais il paraissait normal que le sourcier soit dessiné avec son arme de légende, Six avait peut-être également eu ce sentiment. La tête inclinée, Violette s'éloigna de la paroi pour mieux admirer son œuvre. Hypnotisée, Six donnait le sentiment de ne plus avoir conscience du monde qui l'entourait. Tendant un bras, elle caressa les auras qui entouraient Richard.
« Quand établirons-nous la connexion finale ?» demanda Violette.
Sous les doigts de Six, certains détails des chaînes d'équations se mirent à briller doucement.
« Bientôt,
soupira l'âme damnée de Violette. « Très bientôt !»